Les 26 et 27 octobre 2019 se tenait la 14e édition du Salon Tatou Juste, le rendez-vous des solutions heureuses. Radio Onden vous propose de revivre cet événement à travers les conférences organisées à cette occasion.
On a la chance d'avoir des gens qui sont spécialistes de ces domaines-là et on a invité donc le Low Tech Lab avec une représentante qui est Elsa. Une autre devait venir, c'est ce qui était marqué sur le programme, de Bretagne. Donc vous savez, la Bretagne, c'est le pays de Bad Baorum, d'Obélix, etc. Mais elle vient de Grenoble, donc c'est là où aussi on a inventé l'énergie hydraulique. Donc elle a beaucoup d'énergie, puisqu'elle est aussi élève ingénieure, et elle va évoquer son expérience de pratique et la démarche du Low Tech Lab. Merci.
Bonjour. Eh bien, dans ce cas, bonjour. Moi, je suis Elsa Donadio. Je suis une étudiante en dernière année en école d'ingénieur à l'ENSECUB. C'est une école de l'énergie et de l'environnement. Aujourd'hui, on devait être deux pour présenter cette conférence, mais comme l'a dit Philippe, ma coéquipière a eu un empêchement. Donc, je suis là, le porte-parole du Low Tech Lab pour vous aujourd'hui. Merci. Moi, je fais partie de la communauté locale Low Tech Lab Grenoble. Donc, c'est en fait le Low Tech Lab, c'est une association qui est nationale et qui est basée à Concarneau. Et très récemment, se sont développées des communautés locales dans différentes villes, à Grenoble, Marseille, Bordeaux, Paris. Donc Grenoble en est une. Et je suis également ce qu'on appelle une exploratrice low-tech, puisque l'année dernière, j'ai fait une pause dans mes études et je suis partie à l'exploration de low-tech pour les documenter sur le site du Low-Tech Lab. Donc aujourd'hui, on va un peu aborder ce que c'est les low-tech. Expliquer d'où ça vient, pourquoi on fait des low-tech. Je vous présenterai aussi le Low-Tech Lab, ses projets différents, parce que le Low-Tech Lab a énormément de projets pour expérimenter tout ce qui est low-tech, les communautés locales et le programme Low-Tech Explorer. Alors déjà, pourquoi on fait des low-tech ? Bon, c'est pas très rigolo. On part d'un constat qui est que la Terre est limitée en ressources et les besoins des hommes sont illimités ou du moins toujours grandissants avec une augmentation de la démographie à l'échelle mondiale et une augmentation des niveaux de vie. En fait, aujourd'hui, notre mode de vie, il est tel quel grâce à l'énergie qu'on produit. Donc notre civilisation, elle s'est construite sur une production énergétique qui vient de différentes sources d'énergie. D'abord le bois, puis le charbon, puis le gaz, enfin le pétrole. Et chaque fois, se sont ajoutées les unes aux autres ces énergies. Du coup, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on produit des énergies renouvelables pour remplacer le pétrole. Mais non, on produit des énergies renouvelables et cette production vient s'ajouter à notre production initiale d'énergie pour répondre à des besoins toujours grandissants. Et le constat est qu'on arrive à un point un peu limite avec une urgence climatique, bon, je ne vous apprends rien, avec beaucoup de déchets, une urgence en termes de biodiversité également, une extinction de masse, 60% des animaux disparus en 40 ans, et des pénuries en eau. Et donc à partir de ce constat, on s'est demandé au Low Tech Lab quels sont réellement nos besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout et comment identifier ces besoins? Est-ce qu'un frigo connecté qui nous indique la date de péremption de mon yaourt est réellement un besoin? Et une fois qu'on a identifié ces besoins qui sont essentiels, comment faire pour répondre à ces besoins essentiels avec peu? Donc c'est exactement là d'où vient les low-tech, répondre à des besoins essentiels avec peu de ressources et de manière durable. Donc il y a trois aspects importants dans les low-tech. Le premier, c'est l'aspect utile. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est le fait de répondre à des besoins. Et ces besoins, ils peuvent être dans tous les domaines. Domaine de l'habitat, de l'énergie, de la construction, des matériaux. Il faut qu'ils répondent à des besoins avec des ressources qui sont locales. Donc avec des moyens du bord. Le but, c'est de se débrouiller avec ce qui nous entoure. Donc on a une question d'accessibilité des moyens de production. L'accessibilité, les low-tech, elles sont accessibles sur trois volets différents. Elles sont accessibles en termes de coûts, puisqu'on essaye de faire de répondre à nos besoins avec le peu qu'on a et donc peu d'argent. Elles sont aussi accessibles en termes de matières premières, donc utiliser des ressources locales. Et elles sont accessibles en termes de savoir-faire. Donc l'objectif, c'est de se réapproprier les savoir-faire et de savoir réparer nos inventions. En fait, c'est un peu en opposition au high-tech. Une télé, on ne sait pas trop comment la réparer, ou généralement, on l'envoie réparer. Ça nous coûte plus cher que d'avoir acheté une télé toute neuve. Donc l'objectif avec les low-tech, c'est de se réapproprier ces savoir-faire et lutter contre cette obsolescence programmée. Bien sûr, ces technologies, enfin, il ne faut pas forcément être un énorme bricoleur pour faire des low-tech. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se sentir exclu. C'est pas parce que vous bricolez pas que vous ne pouvez pas faire des low-tech. Les low-tech, ça permet de répondre à des besoins, certes individuels, mais on peut mutualiser tous les savoir-faire. Par exemple, les low-tech, c'est très approprié pour un refuge qui va être en autonomie au fin fond de la montagne. Là, on peut utiliser des low-tech pour répondre à nos besoins, mais ça a aussi tout à fait sa place dans des villes. Par exemple, je pense à du compost. Là, l'idée, c'est pas d'avoir un compost par maison. L'idée, c'est plutôt d'avoir un compost dans la ville qu'on mutualise. Donc, il y a vraiment cet aspect de mutualisation. Il ne faut pas forcément être un bricoleur expert pour inventer et utiliser des low-tech. On a aussi une dimension un peu en opposition à la technologie, puisque le mot low-tech, c'est un peu l'alternative à high-tech. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que la high-tech, c'est le démon. Des fois, c'est plutôt complémentaire, la high-tech et la low-tech. Si je reprends encore mon exemple du frigo, a priori, j'ai besoin d'un frigo, et la high-tech peut me servir. On reviendra là-dessus juste après. Vous présenter peut-être deux petits exemples de low-tech. Ici, on a une éolienne Pigot. C'est des éoliennes qui sont, qu'on peut faire soi-même avec des pales en bois. Il y a une société qui fait ça à Valence, qui forme des gens, qui s'appelle Tilleul, à faire des éoliennes Pigot. Et ici, on a un frigo du désert. Le principe, c'est un bol d'argile dans un autre grand bol d'argile. On met notre nourriture au milieu et entre les deux bols d'argile, on met du sable et de l'eau. Et quand l'eau s'évapore, par principe thermodynamique, la nourriture qui est au milieu va se refroidir. En fait, quand l'eau s'évapore, on absorbe de l'énergie et donc ça fait baisser la température. C'est exactement le même principe que la sueur. Si on sue quand on fait du sport, en fait, c'est parce que l'évaporation de notre sueur permet de rafraîchir notre température corporelle. Donc là, le frigo du désert, ça permet de conserver la nourriture à peu près 15 degrés, ce qui n'est pas comme un frigo, mais déjà mieux. C'est pour ça, justement, quand je dis que les high-tech sont pas quelque chose à... C'est pas non plus une bête noire, le diable. En fait, généralement, les low-tech et les high-tech sont assez complémentaires, puisque, a priori, on aura quand même besoin d'un frigo pour conserver son lait, puisque le frigo du désert ne peut pas répondre à nos besoins, même si l'objectif, c'est d'avoir des alternatives low-tech au plus de high-tech possible. Il y a quelque chose, par exemple, qui est important, je pense, à retenir, c'est que le progrès technique, oui, il va parfois trop loin. Si je reprends mon exemple de frigo... qui me dit la date de péremption de mes yaourts, effectivement, le progrès technique, là, il va peut-être trop loin, mais c'est aussi grâce au progrès technique, finalement, que ces mêmes frigos consomment de moins en moins d'énergie. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose à mettre tout le temps en opposition par rapport à la sobriété. Un dernier point avant d'aborder la vision. Les low-tech, en fait, c'est un terme qui peut-être vous parle pas parce qu'il est anglicisé, mais... On pourrait appeler ça des technologies adaptées ou des technologies douces. Ce sont souvent des technologies qui finalement sont assez vieilles. Par exemple, le frigo du désert, le principe était utilisé il y a 2500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est juste que le terme low-tech a remis ces technologies au goût du jour avec un terme international pour les désigner. Comme ça, on parle tous de la même chose et ça permet de diffuser ce terme et ces technologies. Ensuite, au Low-Tech Lab, notre vision, c'est de croire à toute cette innovation qui est utile et qui est accessible à tous. Donc j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à cette diapo, mais c'est vraiment notre vision et notre mission. C'est l'idée de partager ces solutions. C'est pour ça qu'on a développé une plateforme sur laquelle chacun peut écrire des tutoriels vidéo, enfin des tutoriels ou même mettre des vidéos pour alimenter ces tutoriels. Et chacun peut donc faire des low-tech grâce à ces tutoriels et améliorer ces tutoriels puisque la plateforme est en open source. Donc on peut tester les tutoriels et si on trouve qu'il y a un problème, les modifier et les améliorer. Le low-tech lab, on a ce côté-là de plateforme. On a également tout un côté projet où on va expérimenter des nouvelles choses, montrer que les low-tech peuvent répondre à nos besoins. Et enfin, on a tout un côté communauté locale où on va essayer de répondre aux besoins avec les ressources locales et de développer avec les citoyens les low-tech. Le premier projet dont je peux vous parler, c'est le projet Nomade des Mers. En fait, en 2016, Corentin de Châtel-Perron, qui est le président de l'association, est parti à quitter Concarneau avec tout son équipage. Et ils sont partis pour des années et des années d'exploration sur les mers. Ils sont actuellement encore en exploration. L'objectif, c'est de continuer à explorer des côtes. Ils sont partis en 2016 de Concarneau. Ils sont arrivés en 2018 en Thaïlande, en Indonésie, pardon. Et ils sont passés par l'Afrique de l'Ouest, ils ont contourné vers Madagascar et ils sont allés jusqu'en Indonésie. Et ils ont réussi à trouver sur place une trentaine de low-tech. Donc l'objectif, c'est vraiment de documenter des low-tech et de voir comment chacun peut répondre à ses besoins localement, avec ses ressources locales. Et il y a aussi tout un côté d'expérimenter ces low-tech sur le bateau. Donc sur le bateau, on est même totalement autonome. Et chaque low-tech permet de répondre à ses besoins. Et c'est un bateau laboratoire. Donc le catamaran sur lequel sont Corentin et son équipage, c'est un catamaran auquel on a donné une deuxième vie et qui est devenu un catamaran laboratoire. Si vous voulez une idée un peu plus précise, on va vous montrer une petite vidéo justement concernant ces expéditions.
Des trois poules d'un élevage industriel. Elle nous donne plein d'œufs. Là, ça fait quelques jours que j'avais pas regardé dans le poulailler. Et il y a 12 œufs. Bien joué, les filles. They look very proud. Like. And the factory is just there.
On est parti de Madagascar le 24 janvier, cap vers l'archipel des Maldives.
Il y a environ 3500 km et comme le bateau il va à peu près à la vitesse d'un skateboard, d'après nos calculs, on devrait mettre un peu moins de 20 jours.
20 jours avec un défi. Ça fait un an qu'on trouve des super low-tech autour du monde, des innovations qui permettent de répondre aux besoins de base avec les moyens du bord. Il était temps d'expérimenter notre maxi best-of low-tech. Voilà le plan. À bord, on est deux équipiers. On fait pousser 130 plants de légumes feuilles en hydroponie. On les mange et on donne les restes à nos trois poules. Elles nous donnent des œufs qu'on mange et des fientes qu'on met dans un compost qui donne un jus qui nourrit les plantes. On donne aussi des légumes à un élevage de 10 000 larves de ténébrions qu'on mange. On produit de l'urine qu'on donne à notre culture de 60 litres de spiruline qu'on mange aussi. Comme ça ne suffit pas, on a un stock de céréales et de haricots qu'on cuit avec un réchaud économe qui marche au bois pour nous, les poules et les vers. Et puis on s'éclaire avec des LED dont l'énergie vient d'une éolienne et de panneaux solaires, qui alimentent aussi des bulleurs pour remuer la spiruline. Et enfin on récupère l'eau de pluie pour arroser tout le monde.
Bonjour, je suis à Madagascar sur Nomade des Mers.
c'est notre bateau laboratoire pour tester des innovations low-tech et ensuite les diffuser en open source. En 2016, on a été dans 7 pays différents pour tester plus d'une trentaine de low-tech. C'est le moment d'élire la low-tech de l'année. C'est pas facile de choisir parce qu'il y en a plein de géniales. Il y a le système d'hydroponie qui permet de diviser par 3 la consommation d'eau pour faire pousser des légumes. Il y a le réchaud à économie de bois, le bioréacteur pour produire de la spiruline, le charbon vert, le biodigesteur, l'élevage d'insectes comestibles, le biofiltre, le désalinisateur solaire, l'extincteur, le rouet plastique, le déshydrateur solaire. Et il y en a encore plein d'autres. Mais l'innovation qui remporte notre coup de cœur de l'année 2016, c'est l'éolienne de Dakar. Elle nous sert tous les jours pour recharger des lampes et nos appareils à bord du bateau. Elle répond à un vrai besoin dans le monde parce qu'il y a des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ce qui est génial, c'est qu'elle coûte moins de 10 euros à fabriquer.
Je crois que le son n'était pas excellent. J'espère que vous avez entendu un peu quelque chose. L'idée, c'est de montrer un peu des exemples de low-tech qu'utilise l'équipage sur le bateau. Donc on a vu, il y a des plantes qui poussent avec de l'hydroponie. On utilise des poêles qui utilisent très très peu de bois. On a un désalinisateur solaire, des petites éoliennes qui permettent d'être autonomes en électricité. Donc en fait, c'est tout un petit écosystème qu'ils ont réussi à créer sur ce bateau pour être totalement autonome. Et peut-être vous avez déjà vu des documentaires sur Arte, puisqu'il y a eu un programme avec Arte pour parler de ses expéditions et ses aventures. Une fois que Corentin est arrivé en Indonésie, il est resté en Thaïlande pour un autre projet qui est la mission Biosphère. Donc là, il est resté 4 mois sur une plateforme flottante de 140 mètres carrés. Et l'objectif, c'était de prendre les 30 meilleurs low-tech qu'il avait découverts pendant son expédition et de les tester en totale autonomie. Donc il était sur une île sauvage, à côté d'une île sauvage inhabitée en Thaïlande, et pendant 4 mois, il a vécu ou survécu grâce aux low-tech. Donc l'objectif, c'est vraiment de prouver que les low-tech, c'est pas juste un délire de personnes un peu marginales, ça peut vraiment fonctionner pour être totalement autonome et répondre à nos besoins. On a une autre photo voilà, qui résume. Une fois que cette mission Biosphère a été terminée, donc 4 mois plus tard, le bateau est reparti pour continuer son expédition. Et cette fois, ils sont allés de la Thaïlande en France. Et aujourd'hui, ils sont encore sur la mer, vers l'Amérique du Sud. Donc le projet continue, toujours à la recherche de low-tech et d'expérimentation low-tech. Alors bien sûr, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est incroyable d'être autonome comme ça, mais nous, chez nous, en ville, est-ce qu'on peut vraiment utiliser de low-tech? Et la réponse, c'est oui. On a Pierre-Alain et Chab, qui sont deux ingénieurs du Low-Tech Lab, qui ont voulu expérimenter l'habitat low-tech. Donc ils ont créé cette mini-maison où à l'intérieur, il y a beaucoup de low-tech. En fait, ça part du constat de se dire que en France, 40% de l'énergie consommée vient de l'habitat et un tiers du gaspillage alimentaire vient de la maison. Donc l'objectif de cette mini-maison, c'est de réduire sa consommation énergétique par 4 et de prouver que c'est possible grâce au low-tech. Donc la maison, elle a été faite sur des roues, elle est mobile, donc elle peut être exposée dans des salons en démonstrateur de « c'est possible ». Sur ces salons, on va montrer que c'est possible de vivre grâce au low-tech. Et Pierre-Alain et Chab restent 4 mois dans la maison. Ils ont également une web-série qu'on peut suivre et où ils donnent des conseils de low-tech qui sont applicables à la maison. Je donne par exemple, vu que je suis partie sur les frigos, un exemple concret, c'est de dire qu'on peut essayer de se passer d'un frigo en utilisant des compartiments, de mettre certains légumes dans un compartiment plutôt sec à la lumière, comme on peut mettre là des tomates, un autre compartiment pour l'ail et les oignons plutôt sec à l'ombre, et pour les courgettes, on va utiliser un compartiment plutôt humide à l'ombre. Et le réfrigérateur, il va juste servir pour du lait et des bières et du poisson. Si j'en ai bien, très important. Non, il peut juste servir pour des choses dont finalement on peut aussi se passer ou acheter au jour le jour. Donc là aussi, il y a une petite vidéo qui montre un peu la tiny house qui est très courte et il n'y a pas de son du coup. C'est juste pour montrer l'intérieur et voir que c'est possible de vivre avec. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur web-série si vous voulez vous inspirer, avoir des low-tech applicables chez vous. Donc on a parlé habitat, on a parlé autonomie, on a parlé d'énormément de choses, mais de mobilité aussi sur mer avec le voilier. Mais finalement, la mobilité terrestre, pas trop. Et c'est également un projet du low-tech lab de réfléchir à comment se déplacer sur des grandes distances dans un monde low-tech. Est-ce qu'il existe une voiture low-tech ? Comment faire ? Donc c'est le projet Agami qui a pour but de répondre à cette interrogation. Le projet Agami, c'est un projet qui est en partenariat avec Karanji, une entreprise qui est basée à Madagascar et qui fait beaucoup d'insertions professionnelles. Donc le Low-Tech Lab et Karanji ont fabriqué une voiture à l'aide de matériaux biosourcés. Donc des matériaux de la fibre de jute pour remplacer la fibre de verre. Donc la jute, c'est une plante qui pousse beaucoup, par exemple, au Bangladesh ou qui pousse énormément sur les détroits du Gange. Et c'est une ressource locale qui est très intéressante à valoriser. Donc l'idée, c'est de remplacer la fibre de verre, qui est un matériau qui est très énergivore à produire et qu'on ne sait très peu recycler, par la fibre de jute. Et donc il y a beaucoup de pièces de la carrosserie, mais également à l'intérieur, du plancher, etc., qui sont fabriquées soit à partir de fibres de jute, soit à partir de bioplastique ou de résine biosourcée. Donc l'objectif de cette expédition, c'est de partir à l'horizon juin 2020 de Madagascar et de remonter tout le côté ouest de l'Afrique jusqu'en Europe sur cette voiture. Donc il y a plusieurs objectifs à ça. Le premier est de vraiment tester les matériaux. On n'a pas l'habitude d'avoir des voitures avec ces matériaux naturels, donc de tester leur robustesse et de tester différents types de matériaux. On voit que là, il y a une fibre de jute qui est unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a posé côte à côte les fibres, alors qu'on peut aussi les tisser. Donc le but, c'est de comparer ces différentes manières de faire de la fibre de jute et de voir laquelle est la plus optimale. Donc c'est vraiment un projet d'expérimentation. Il y a aussi tout un projet d'expérimentation au niveau du carburant, savoir si on peut utiliser du biodiesel fait à partir d'huile de friture ou de la pyrolyse de plastique ou de la pyrolyse de biomasse, donc de déchets agricoles par exemple, ou d'algues. Et donc ce projet est là pour expérimenter et également pour documenter les low-tech. Donc on documente les low-tech qui ont vu le jour en Afrique. Et l'idée est aussi de documenter leur contexte social. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup documenté la low-tech en elle-même, la technologie. Alors qu'en fait, c'est très intéressant de voir comment économiquement s'est développée une low-tech et comment elle a impacté tout localement les habitants. Justement, par exemple, en Afrique, dans certains pays, on a énormément de toilettes sèches qui se sont développées. Et là, on aimerait voir comment les personnes se sont organisées pour, à grande échelle, diffuser les toilettes sèches, organiser un ramassage des seaux et faire du biogaz avec la matière. Donc l'idée est vraiment de documenter ce qui marche et les contextes qui s'inspirent en fait de ce qui se passe en Afrique. Donc c'est le projet Agami. Là on voit sur les photos la fibre de jute en haut pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble. Et l'idée c'est de traverser à peu près 22 pays. Donc partir en juin 2020. On a vu tous les projets d'expérimentation du Low-Tech Lab. Mais récemment se sont créées des communautés plutôt locales, comme le Low-Tech Lab Grenoble dont je fais partie, où l'idée c'est de passer à l'action plutôt à plus petite échelle en utilisant les ressources locales. Donc on va créer des ateliers, des ateliers de sensibilisation ou des ateliers qu'on appelle makerspace, c'est-à-dire des ateliers qui sont à disposition de tout le monde, où on met des outils à disposition, et de faire de la pédagogie. Parmi ces communautés, on trouve une communauté qui s'appelle, qu'on a appelée Low-Tech with Refugees, qui se trouve à l'île de Lesbos, en Grèce. Donc c'est une île qui accueille 16 000 réfugiés, enfin où on trouve 16 000 réfugiés actuellement. Et Low-Tech Lab a fondé un atelier sur place qui se situe dans un centre d'accueil de jour. Donc dans ce centre, on trouve entre autres une école, une bibliothèque, des ateliers de cuisine. Et eux tiennent un atelier où il y a à peu près 350 personnes par mois qui passent, qui viennent pour 350 réfugiés qui viennent pour soit fabriquer un objet, soit réparer leurs objets. Donc c'est sur place, on trouve une équipe de 17 bénévoles, dont deux tiers de réfugiés. Et c'est une équipe qui ne fait que s'agrandir, puisque les réfugiés prennent aussi des apprentis, ce qui est très important pour la pérennité du projet, puisque du jour au lendemain, si le réfugié obtient sa demande d'asile, il peut partir à Athènes ou sur la Grèce continentale. Donc c'est important d'avoir des gens qui sont formés au jour le jour sur place. Donc sur ce projet, on cherche aussi à répondre à des défis locaux, voir si les low-tech sont applicables pour répondre aux besoins dans un contexte de solidarité et un contexte pour améliorer l'autosuffisance des gens. Sur place, on a beaucoup de déchets qui sont faits chaque jour. Il y a deux bouteilles d'eau par personne qui sont distribuées par jour, donc 16 000 fois 2 par jour, ça fait beaucoup de bouteilles d'eau en plastique, des repas aussi distribués en aluminium, etc. Donc l'idée, c'est de savoir comment revaloriser ces déchets et comment répondre à des besoins qui, selon les saisons, changent. En hiver, on aura besoin de se chauffer, alors qu'en été, on a besoin de se rafraîchir. Pour répondre à ces besoins, on a trouvé des solutions comme utiliser les gilets de sauvetage pour isoler les tentes et les containers dans lesquels les réfugiés vivent. On a également des poêles qui utilisent très peu de bois, qui sont très efficaces dans la combustion de bois. Donc c'est vraiment des solutions qui sont développées sur place avec les réfugiés qui eux-mêmes apportent des solutions, puisque une majeure partie de personnes ont fait très jeunes des travaux manuels et ils connaissent pas le terme low-tech, mais ils savent ce que c'est la débrouille et ils apportent plein d'idées et plein de solutions pour répondre à leurs besoins. Comme par exemple, ils vont sans cesse améliorer des low-tech. Une femme, la dernière fois, disait que le poêle faisait de la fumée dans sa tente. Alors elle a eu l'idée de faire une cheminée avec des boîtes de conserve pour acheminer la fumée dehors. Donc on a réellement toutes ces contraintes qui viendraient pour répondre à des besoins. Je pense aussi également au bois. Les gens viennent couper des oliviers et les Grecs ne sont pas très contents qu'on coupe leurs oliviers pour faire du bois, pour se chauffer. Donc on est en train de développer des petites briquettes qui sont faites à partir de carton mouillé puis compressé, ou qui sont faites à partir de matériaux agricoles comme de la paille, ou des fruits à coque, les coques des fruits. Ensuite, on a plus que des communautés locales en France. Donc moi, je fais partie du Low-Tech Lab Grenoble. On est très très récent. L'asso s'est créé vers décembre 2018. Et on a fait plusieurs projets sur place. Donc essentiellement, c'est des projets de sensibilisation où on fait des ateliers de construction. Le but, c'est de partager les savoir-faire. Et on a également fait un tour, c'est le Low-Tech Tour, à Grenoble, dans le bassin grenoblois, où on est allé voir les initiatives low-tech qui sont locales, parce qu'on peut aller à l'autre bout du monde voir les low-tech qui existent, mais finalement, il existe aussi beaucoup d'initiatives locales à côté de chez soi. Donc on est allé, on a vu une palmeraie, oui, une palmeraie dans les Alpes, ça existe, ça surprend. Où le propriétaire utilisait l'urine comme engrais biologique, enfin comme engrais. Donc c'est une des low-tech qu'on a pu référencer pendant ce tour. Et sinon, on fait des salons et on a obtenu un local très récemment. Donc, on va pouvoir commencer à expérimenter les tutoriels et les low-tech sur place. Enfin, un dernier programme que Low-Tech Lab a mis en place, c'est un programme d'exploration de low-tech. En fait, l'année dernière, je suis partie pendant 7 mois avec une amie. On est partie en Amérique du Sud pour documenter des low-tech, puisqu'on a pu voir avec le nomade des mers que Corentin est resté sur les côtes. Et nous, on a voulu aller à la découverte de low-tech dans les terres. Donc, on est parti en Amérique du Sud et pendant 7 mois, on a documenté à peu près une quinzaine de low-tech différentes. Donc, on a trouvé, par exemple, ce qu'on appelle des bici machina. Donc, c'est des machines à pédales et qui permettent d'utiliser le mouvement de rotation pour répondre à des besoins, comme par exemple faire sa machine à laver en pédalant ou mixer en pédalant. Ça, c'est une low-tech qui est quand même assez connue, mais on a trouvé des choses un peu moins connues, ou des filtres à céramique, par exemple, qui permettent de filtrer l'eau en utilisant des pots en argile. Et donc, c'était vraiment une super expérience de rencontrer des gens qui sont engagés, et c'était vraiment quelque chose de super. Et aujourd'hui, le programme de low-tech Explorer, il prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent partir documenter des low-tech et alimenter la plateforme. Donc ici, on peut voir un peu un aperçu de la plateforme du Low-Tech Lab où chacun peut poster des tutoriels et les écrire. Chacun peut aussi les traduire. On a besoin de traducteurs. Donc si vous savez parler plusieurs langues et que vous avez envie de pratiquer un peu, n'hésitez pas. Actuellement, le site web du Low-Tech Lab est en train d'être refait pour être un peu moins énergivore. Mais bientôt, tout sera redisponible. Mais la plateforme est accessible. Bon, ça, c'est juste une photo de ce dont je parlais, les machines pour permettre de faire un smoothie grâce au low-tech. Donc, le Low-Tech Lab a différents partenaires. Donc, on a Arte, avec lesquels on a pu diffuser les low-tech avec le Nomade des Mers. Des fondations aussi d'entreprises et l'ADEME qui nous aide. Une petite phrase de Saint-Exupéry pour la route. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. En fait, c'est l'idée aussi que c'est assez compliqué d'innover en faisant des choses simples. On se dit finalement, répondre à ses besoins avec les moyens du bord, c'est quelque chose de facile. Et ben, pas toujours, on a tendance à l'oublier. Enfin, il y a vraiment un point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'on a tendance à penser que les low-tech sont réservés aux ingénieurs et à des gens qui s'y connaissent en technique et en innovation, alors que non, pas du tout. On a vraiment besoin de tout type de profil. On a besoin de tout corps de métier. On a besoin de personnes, par exemple, qui, pour des communautés locales, font de la gestion humaine plutôt, ou savent de la trésorerie, coordonnent les équipes. Ça, on a besoin. On a besoin d'enseignants aussi qui viennent diffuser les low-tech. Et pas forcément un prof de techno. On a besoin aussi de... Ça peut rentrer dans un cadre de cours d'éducation civique. Ou on a besoin aussi de... Enfin, ça peut rentrer dans un cadre de cours d'anglais, par exemple, si vous voulez vous amuser à faire traduire les tutoriels par vos élèves. Ça pourrait être super. On pourrait penser aussi à des artistes qui fassent une BD ou un conte sur les low-tech. Ça peut être très poétique. On a vraiment besoin de tout le monde, et si vous avez envie de vous investir localement, et ben n'hésitez pas. Je pense qu'à la fin de, on pourra, je vais rester un peu ici. Si vous voulez qu'on échange des adresses mail et échanger, si vous avez envie de monter une communauté locale à Saint-Étienne, ça pourrait être super. Donc je serai soit ici, soit à l'espace Focus à l'entrée. Vraiment, c'est important de se dire que c'est le tech, c'est pas que pour les bricoleurs. On a cette idée-là en tête, alors que non, on peut justement... Des gens qui n'ont pas trop de technique, ils vont avoir tendance à simplifier les solutions et à les rendre encore plus accessibles. Et c'est important d'avoir cette diversité-là pour développer les low-tech. Donc, je voulais vous remercier pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.
ben, sans faire votre framelaire, s'il y a un qui veut le traduire en garagnard pour les myomatru, pour faire un atelier à Saint-Chemin, hein, c'est bon. Hein. Y a-t-il un volontaire dans la salle? Excusez-moi pour l'interprétation mauvaise, je reprends pour ceux qui parlent le garagnard. Non. C'est un petit garçon, un atelier à Saint-Chamon, on enlève les voyelles. Donc traduire en garagna, c'est en enfer. En garagna, c'est le gaga, elle n'est pas d'ici. Hein. C'est un langage populaire local et je respecte beaucoup les gens qui parlent encore, mais qui sont peu nombreux. Je ne suis pas d'origine, mais je m'amuse des fois comme ça.
Donc, les grands-parents sont d'ici.
Les grands-parents sont d'ici. Il n'y a pas mon bonheur. Elle est mieux matrue, mais je ne l'ai pas reconnue. Voilà, donc moi je ne vais plus parler. Je vais simplement vous donner le micro suivant les bras qui vont se lever pour interroger Elsa.
J'habite dans un quartier qui est le même que le sien, là, où on a beaucoup fabriqué de choses, et notamment des jardins avec des bacs à composter, des choses comme ça, avec, j'ai que vous évoquez, hein, on n'a pas les... pour des raisons de moyens.
Je vous entends très mal, attendez.
En utilisant des matériaux de récupération, et là, on travaille sur... On a fait des jeux dans...
Des
jeux pour les enfants, oui, okay. Dans un jardin qu'on a fait. On a travaillé avec un designer, hein, qui a... Les enfants participent à la fabrication des jeux. Tout le monde aime bien, notamment les habitants d'ailleurs, qui sont assez travailleurs et créatifs. Quand on nous oppose souvent... on a beaucoup de problèmes. Hein, on nous oppose souvent la question des règlements de sécurité... c'est-à-dire, on nous dit, voilà, les services, hein, surtout, plus que les élus. Si jamais un enfant a un accident en jouant avec vos jeux, que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de problème, vous aussi?
Alors, généralement, pas trop, parce que... Alors, effectivement, il y a une question de sécurité qui peut se poser, mais nous, les ateliers qu'on organise au Le Tech Lab Grenoble, c'est pas des gros ateliers avec de la soudure pour l'instant, on a organisé surtout des ateliers de poils faits à partir de boîtes de conserve. Donc, ça n'a pas été quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes de sécurité. Mais effectivement, la question peut se poser. Et je ne sais pas exactement vous répondre sur comment faire dans ces cas-là. Je suppose qu'il y a une part du président de l'association locale qui sera mise en jeu. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas encore totalement réfléchi, mais... Effectivement, la question viendra se poser quand est-ce au moment opportun.
Est-ce que tu utilises du low-tech tous les jours chez toi? Et laquelle, Déco?
Alors, tous les jours, non. C'est encore... En plus, moi, je suis dans une coloc étudiante où on part bientôt tous, on est arrivé il n'y a pas longtemps, donc c'est difficile de mettre des choses en place sur le long terme. Mais on a eu des problèmes de frigo au début, alors on a dû forcément se débrouiller un peu avec les moyens. Mais des choses que je pourrais utiliser chez moi, le four solaire par exemple, c'est super parce qu'en été, en pleine canicule, on n'a pas envie d'allumer son four et on est super content d'avoir un four solaire qui puisse cuire nos aliments. Mais ça peut, voilà, il peut avoir de four solaire, le frigo du désert peut aider. On peut également aussi mettre des légumes dans du sable pour qu'ils se conservent. Il y a plein de petites choses à faire.
Oui. Il faut vous parler dans le micro.
Tout ce que vous avez présenté, je suis low tech. Il y a très peu d'informatique en fait, très peu de code. C'est un choix ou c'est est-ce que c'est quelque chose sur lequel on se heurte quand on veut faire des low tech? C'est à chaque fois il y a un microprocesseur, il y a des choses à développer. Est-ce que c'est un parti pris de pas utiliser ce genre de techno?
Alors oui, tout à fait, puisque l'objectif des low tech c'est d'être totalement le plus possible accessible à tous. Et donc, dès que ça touche à l'informatique et au numérique, c'est beaucoup plus difficile de faire soi-même. Généralement, ça répond à des besoins vraiment essentiels et, comme je disais, avec vraiment des moyens du bord. Donc, Là, typiquement, pour, si on est dans un endroit abandonné et qu'on n'a plus rien autour, enfin, on va se débrouiller avec ce qu'il y a autour de nous. Donc, on va faire, par exemple, ce poêle avec des boîtes de conserve. C'est vraiment l'idée de faire une technologie le plus simple possible. Donc, généralement, ça se traduit par sans informatique. Mais bien sûr, il y a, par exemple, dans les exemples que j'ai montrés, il y avait l'éolienne en bois. Donc ça, ça utilise un minimum d'électronique. Donc effectivement, c'est pas... En fait, il n'y a rien qui est zéro impact. Rien n'est zéro... c'est toute une question de relativité, finalement. Cette éolienne, elle est beaucoup plus low-tech qu'une grosse éolienne qu'on trouve dans la campagne et qui produit beaucoup plus d'énergie. Mais elle n'a pas zéro impact. Et oui, il y a un peu d'électronique dedans. Mais c'est vrai que la différence, elle n'est pas forcément toujours perceptible. Ce qui est low-tech pour les uns peut être très difficile à faire pour d'autres.
J'ai le droit de poser une question ? Ouais. En tant qu'élève ingénieur et futur ingénieur, est-ce que cette dimension-là prend de la part dans la formation des ingénieurs ? Parce qu'on est plutôt à l'inverse. Un ingénieur qui va être brillant, qui va déposer des brevets, il a un super avenir. Quelqu'un qui va faire des choses simples à partager, il a un avenir humain différent, mais forcément la même carrière.
Oui, bien sûr, c'est une question de choix. C'est pas la même carrière. Après, on peut croire intérieurement que finalement, c'est ça la meilleure solution et que c'est vers ça qu'il faut tendre et être en accord avec ses valeurs et peut-être abandonner une certaine réussite, en très grand guillemets, professionnelle. Moi, je suis persuadée que l'innovation low-tech, ça a beaucoup de potentiel et que c'est finalement presque plus difficile à faire que de l'innovation avec tous les moyens qu'on veut, les imprimantes 3D qu'on veut. Finalement, faire avec peu, c'est assez compliqué.
Vous avez parlé du low-tech de Grenoble. Dedans, il y a qui comme personne ? C'est des jeunes, que des ingénieurs ? Fin...
Alors malheureusement, il y a beaucoup d'ingénieurs. Un peu comme à low-tech lab à Concarneau, où il y a beaucoup d'ingénieurs, mais justement, on aimerait que ce soit plus divers. La personne qui a monté le low-tech lab Grenoble, c'est un ancien ingénieur de mon école. Mais récemment, il y a aussi des personnes qui viennent d'autres formations. Donc ça va être souvent des scientifiques dans la recherche, mais il y a aussi des formations Sciences Po, par exemple. Et ça, c'est chouette d'avoir vraiment des profils différents. Et franchement, on est à la recherche de personnes aussi qui peuvent diversifier tout ça.
Parce que dans votre mode de fonctionnement, c'est beaucoup comme tout ce qui est quand on fait des processus de créativité ou des séminaires dans l'innovation ou dans le design, ça ressemble beaucoup. Et du coup, ça pourrait être intéressant de... Parce que surtout à Grenoble, il y a beaucoup de... Enfin, rien qu'à l'IAE, par exemple, il y a un master management de l'innovation. Et ce que vous proposez, ça correspond beaucoup à certaines de ces personnes. Et donc, ça pourrait être intéressant pour votre communauté.
Moi, je suis bien motivée que tu me passes ton contact, qu'on puisse organiser des choses comme ça. Mais c'est vrai que le low-tech lab, en tout cas, fait pas mal de séminaires et des sortes de challenges sur un week-end où, pour des entreprises, on va avoir un challenge à défier, enfin à relever et inventer la solution la plus créative pour relever ce challenge. Ça se fait du moins à l'échelle nationale, mais localement, ce serait bien de tendre vers ça. La communauté est vraiment très récente, donc nos activités fleurissent progressivement. Mais en tout cas, ça, je serais bien motivée que tu me dises, que tu me trouves contact. Et...
merci.
Merci beaucoup.